Quand on pense à la création d'un site web, l'image qui vient presque toujours à l'esprit en premier, c'est la construction d'une maison.
Ouais, c'est un grand classique.
Bah oui, on passe un temps infini, parfois des semaines entières, à choisir, je sais pas, la couleur des murs, l'agencement des pièces, la disposition de la vitrine.
La fameuse page d'accueil, quoi.
Voilà, exactement. On se focalise totalement sur la surface.
Sur le design.
Mais en faisant ça, on a une fâcheuse tendance à oublier complètement ce qui fait que la maison est habitable, en fait.
La plomberie.
La plomberie, l'électricité, les fondations invisibles. Dans le monde numérique, cette plomberie, c'est l'hébergement sur des serveurs, c'est le code PHP, c'est la gestion des bases de données MySQL.
Et c'est souvent là que ça coince.
Mais tellement. Et pire encore, on oublie souvent l'adresse postale. Enfin, je veux dire, le référencement, le SEO. Sans ça, cette magnifique maison reste juste invisible, perdue au beau milieu d'un désert virtuel.
C'est une très belle analogie pour commencer.
Merci. Et aujourd'hui, pour notre exploration en profondeur, la mission, c'est vraiment de démystifier tout cet envers du décor du web design local.
Tout à fait.
Et pour ça, notre analyse s'appuie sur une source unique, une vraie mine d'or d'informations brutes. On va se plonger dans le portfolio et le blog technique d'un artisan du web, Christophe Lemaire.
Un développeur freelance, oui.
C'est ça, basé dans le Gard, à Sommières. Et en tant qu'animatrice de ce décryptage, je suis vraiment ravie de me pencher là-dessus avec vous.
Et moi, je suis ravie d'être là. Ce qui est fascinant, c'est que cette source, elle valide complètement votre analogie de la maison.
Ah oui ?
Ah oui, parce que ce qui saute aux yeux tout au parcours ces documents, c'est la complexité ahurissante de cette fameuse architecture invisible.
Ouais, on s'en rend pas compte en tant qu'utilisateur.
Pas du tout. Et ce qui rend cette source précise absolument captivante, c'est qu'elle ne théorise pas le web, elle le vit au quotidien.
C'est du concret.
Exactement. C'est une fenêtre temporelle sur l'évolution de tout un métier. On a affaire à un acteur qui gère l'intégralité de ses aspects, de la plomberie des serveurs jusqu'aux finitions de la peinture numérique. Et ça, depuis 2007.
C'est ça qui est dingue.
À travers ces notes de terrain, on perçoit vraiment une industrie qui est à un point de bascule vertigineux aujourd'hui.
Avec l'intelligence artificielle notamment, non ?
Complètement. Les règles du jeu historique sont en train d'être littéralement pulvérisées.
Ok, décortiquons ça. Est-ce qu'il y a un élément qui m'a sauté aux yeux direct dans ces sources ? Et franchement, ça me pose un vrai problème logique.
Ah, lequel ?
Ce développeur est en activité depuis 2007.
Oui.
Dans le monde du numérique, 2007, c'est l'antiquité absolue. Enfin, c'est l'année où le premier iPhone a été présenté, pour donner une idée.
C'est vrai que ça remonte, oui.
Or, depuis cette époque, il maintient un positionnement très particulier. La promesse d'avoir un seul et unique interlocuteur.
C'est un choix fort.
Très fort. Il gère l'hébergement en tant que spécialiste des serveurs OVH, il fait le web design de A à Z et il s'occupe du référencement SEO.
Tout le cycle de vie du site, en gros.
Voilà. Sauf que, dans le monde actuel, tout pousse à l'hyper-spécialisation. On a des agences avec des ingénieurs réseau d'un côté, des experts en interface de l'autre.
Des analystes de données, des copywriters.
Exactement. Alors, est-ce que ce modèle du couteau suisse qui fait absolument tout, c'est pas un pari incroyablement risqué aujourd'hui ?
C'est une excellente question.
Parce que si cet interlocuteur unique est malade ou indisponible, bam, c'est toute la présence en ligne d'une boîte locale qui est paralysée, non ?
C'est une objection tout à fait rationnelle. Et sur le papier, c'est vrai que les grandes agences semblent offrir plus de sécurité.
Bah oui, il y a plus de monde.
Sauf que la réalité du terrain, telle qu'elle est exposée dans ce portfolio, prouve exactement l'inverse. Sa longévité depuis 2007 démontre que ce modèle fonctionne.
Comment ça se fait ?
En fait, l'hyperspécialisation dans les agences, ça crée très souvent un effet de téléphone arabe.
Mm-hmm.
Et une dilution écrasante des responsabilités.
Ah, le fameux « c'est pas mon département ».
C'est ça. Le designer va imaginer une interface visuelle époustouflante, super belle, mais qui est une aberration technique pour l'ingénieur qui doit la coder derrière.
Je vois le genre.
Le modèle du développeur freelance, lui, pallie ce problème par une vision globale de l'architecture. Dans les sources, il met en avant deux avantages majeurs, la transparence et un budget maîtrisé.
Deux arguments qui parlent bien aux clients en général.
Évidemment, puisque c'est le même cerveau qui conçoit le visuel et qui sait comment les bases de données vont s'organiser, bah, il n'y a aucune déperdition d'informations. Les contraintes sont intégrées dès le premier coup de crayon.
D'accord, je comprends la théorie. Mais comment ça se traduit concrètement ? Parce que quand on regarde la liste des clients dans le portfolio, c'est une diversité étourdissante.
C'est très varié, oui.
Mais vraiment ? On y trouve des artisans, des sites e-commerce purs, des domaines viticoles, des brasseries.
Il y a même le milieu juridique.
Le milieu juridique, des parcs de loisirs, l'éducation et beaucoup de gîtes. Ce sont des métiers qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres.
Et c'est justement ça la force du modèle. C'est parce que ces métiers n'ont rien à voir que le fait d'avoir un interlocuteur unique prend tout son sens.
C'est-à-dire ?
Les sources montrent que le travail s'effectue de deux façons. Parfois en sous-traitance pour des agences, où il reste dans l'ombre.
Ok, la marque blanche en gros.
C'est ça. Mais le plus souvent, c'est en direct. Et le travail en direct exige une capacité de traduction phénoménale. L'enjeu, c'est de traduire les besoins et les angoisses d'un professionnel en une solution numérique fiable.
Ce n'est pas juste appliquer une recette technique standard, quoi.
Pas du tout. Et l'autre point fondamental de ce modèle de couteau suisse, c'est l'ancrage local très fort.
Ah oui, j'allais y venir.
Les réalisations maillent littéralement le Gard et ses environs. Sommières, Nîmes, Alès, Uzès, Montpellier et même jusqu'aux Yvelines.
Ça m'a fasciné ça. Ça donne l'impression d'une sorte de circuit court du numérique, en fait.
C'est une bonne façon de le dire.
On fait appel aux maraîchers du coin et hop, on fait appel aux développeurs web du coin.
Exactement. Et ça permet des promesses très fortes comme la rapidité des devis. Le fait de fournir un devis en 24 heures en moyenne après le cahier des charges, c'est énorme.
Ah oui, 24 heures, c'est ultra rapide pour du web.
C'est possible uniquement parce qu'il n'y a pas trois comités de direction à réunir. Ça implique une expérience empirique massive accumulée depuis 2007.
Ouais, il voit le projet et il sait direct où il va.
Voilà. Les ramifications techniques et les pièges sont identifiés tout de suite.
Prenons des exemples précis parce que les sources en regorgent. On a le site de RC Élagage.
Oui, très bon exemple.
Publié en février 2026. Donc un pro de l'abattage et du débroussaillage.
Du très concret, du terrain.
Exactement. Et le mois suivant, en mars 2026, bam, le site Axe Joaillerie, une boutique en ligne.
Effectivement.
On passe du bruit de la tronçonneuse à la vente de pierres précieuses.
Et pourtant, les fondations sont similaires.
C'est ça ma question. On suppose que l'écosystème technique derrière est le même.
Absolument. C'est là qu'on plonge dans la machinerie. Pour l'élagueur ou le joaillier, l'objectif est le même. Générer des contacts ou des ventes.
Sans que la technologie ne soit un boulet, quoi.
Voilà. Et les sources détaillent très bien cette expertise. WordPress est le moteur principal.
Le grand classique.
À cela s'ajoute le template Divi pour la construction visuelle et WooCommerce pour la partie boutique marchande. Et bien sûr, les langages de base HTML, CSS, JavaScript et le fameux tandem PHP MySQL pour la logique serveur.
Alors, attendez, parlons-en de cet écosystème. Parce que là, on trouve l'une des révélations les plus, franchement, surprenantes de cette analyse.
Ah, je crois savoir de quoi vous allez parler. Le drame Divi.
Le drame Divi, exactement. On pourrait croire que maîtriser tous ces outils, ça garantit une tranquillité totale. Mais sur le blog, on apprend que Divi, qui est quand même le thème WordPress le plus populaire au monde...
Un des plus utilisés, oui, de très loin.
Eh bien, ça fait un an qu'il n'a pas été mis à jour.
Un an entier, oui.
C'est de la folie. Le développeur en est réduit à faire un article pour parler de cette attente interminable de Divi 5. Moi, je suis désolée, mais un an sans mise à jour dans le web, c'est une anomalie temporelle.
C'est très long, on est d'accord.
C'est comme si, imaginez, vous achetez une voiture de sport ultra performante, vous êtes à pleine vitesse sur l'autoroute et d'un coup, vous captez que le constructeur ne fournit plus de plaquettes de frein depuis 12 mois.
La conduite devient terrifiante.
Bah oui.
Ce qui est fascinant ici, c'est la mise en lumière de cette tension entre la stabilité et l'innovation.
Comment ça ?
Pour reprendre votre analogie, le problème, ce n'est pas juste l'absence de freins neufs, c'est que l'autoroute elle-même change en permanence sous vos pneus.
Ah oui, les navigateurs évoluent.
Les standards évoluent et surtout la cybersécurité. C'est un sujet très présent sur le blog. Les hackers cherchent de nouvelles failles en permanence.
Ils jettent des clous sur l'autoroute, en gros.
Exactement. Donc, cette attente de Divi 5 illustre un défi caché majeur. Jongler entre des technologies complexes et assurer la sécurité, alors qu'on dépend d'un outil externe.
Donc, le développeur se retrouve en première ligne, tout seul.
Voilà, il doit colmater les brèches potentielles. Ça montre bien que le web design, c'est une veille de sécurité de tous les instants.
Mais du coup, ça soulève une question évidente. Si c'est si fragile, comment le client final, genre les lagueurs, y fait pour survivre? Il risque de se réveiller avec son site piraté un matin.
Et c'est précisément là qu'intervient l'étape la plus négligée du web, le suivi.
Ah, l'après-lancement.
C'est ça. Le blog souligne que c'est une erreur commune de voir un site comme un objet fini.
Genre, on achète un meuble, on le pose et c'est bon.
Voilà. Alors qu'en réalité, un site, c'est organique. Le suivi sur le long terme, c'est essentiel pour la performance, la visibilité et la rentabilité.
c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'analyse nous révèle une statistique amusante dans les emails des clients.
Ah oui, le fameux mot.
Le mot « réactivité ». Il revient en boucle. Pourquoi les propriétaires de sites, malgré les enjeux financiers, oublient-ils le suivi et ne jurent finalement que par la réactivité en cas de crise ?
Ça touche au comportement humain profond. En fait, la véritable angoisse d'un client, que ce soit un artisan ou un artiste, ce n'est pas la création initiale.
C'est quoi alors ?
C'est la peur de se retrouver seul en cas de panne.
Ah, la panne fatale !
Prenez l'exemple du Blanc, « La vérité des livres ».
Oui, par Éric Forissier, c'est ça.
Février 2026.
Exactement.
Un projet éditorial de ce type nécessite un suivi technique constant. Si la base de données plante un dimanche matin, c'est l'écran blanc. L'écran blanc, c'est la terreur.
C'est le magasin fermé avec les rideaux de fer baissés.
Et c'est là que le mot « réactivité » prend tout son sens. Savoir que son développeur local peut intervenir et tout relancer rapidement, c'est l'antidote à l'obsolescence.
Je vois. Donc le suivi garantit que le site reste debout et visible.
Exactement.
Mais alors, concernant cette visibilité, on arrive à un bouleversement énorme mentionné dans les sources. Historiquement, le SEO classique, c'était la règle.
L'optimisation pour les moteurs de recherche, oui.
Mais le blog parle d'une révolution. Du SEO vers le GEO, Generative Engine Optimization.
C'est un changement de paradigme complet.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? On passe des pages jaunes ou Google classiques à demander à ChatGPT qui agit comme un concierge hyperlocalisé.
C'est exactement ça. Si l'on relie ça à la vue d'ensemble, on passe d'un système optimisé pour des algorithmes de liens à un système où il faut convaincre une IA générative.
Convaincre une IA ? Mais comment on fait ça ?
L'IA cherche la meilleure réponse conversationnelle. Donc notre développeur à sommière doit prouver à la machine que le gîte de son client dans les Cévennes est la bonne adresse.
Mais l'IA ne lit pas juste les mots-clés ?
Non, elle comprend le contexte, les avis, la structure. C'est le futur immédiat du web design. Il ne suffit plus d'être en ligne, il faut être conversationnellement pertinent pour ces intelligences artificielles.
Waouh, c'est un sacré voyage qu'on vient de faire. On est parti des bases du dev web en 2007 avec le code et les serveurs. On a vu l'importance vitale du suivi humain et de la réactivité.
Et on atterrit dans l'avenir de la recherche locale avec l'IA.
C'est ça. Pour notre auditoire, comprendre cette architecture invisible, c'est réaliser que le web, bah, c'est pas de la magie.
C'est un artisanat constant, ouais.
Qui nécessite autant d'expérience humaine que d'adaptation technologique. Mais ça m'amène à une pensée finale, un peu provocatrice, peut-être.
Je vous écoute.
Si des moteurs génératifs comme ChatGPT deviennent le principal moyen de trouver des services de proximité, est-ce que les sites web de demain seront encore conçus pour être lus par des humains ? Ou bien seront-ils construits exclusivement pour plaire aux intelligences artificielles ?
C'est une excellente question pour conclure, en effet.
Merci d'avoir exploré tout ça avec moi et merci à toutes et tous de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur du web local.